Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
Anne Contner.
Dans l'actualité, ce mardi, la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, elle a été imposée par la Chine. Aujourd'hui, elle prévoit une peine de prison à vie pour toute personne qui porterait atteinte à la sécurité nationale. Cela inquiète beaucoup les opposants au régime de Pékin. L'Union européenne rouvre ses frontières ce soir. C'est une nouvelle étape dans la levée des mesures contre le coronavirus. Mais pour l'instant, une quinzaine de pays seulement sont concernés. Les États-Unis, par exemple, ne figurent pas sur la liste. En visite au Sahel, Emmanuel Macron met en avant les bons résultats de la force française et des pays du G5 contre les djihadistes. Mais il prévient, il faut encore travailler pour que l'État revienne dans les zones reculées et que des projets de développement soient mis en place. Et puis, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. La compétition africaine de football est reportée à 2022 à cause de la pandémie de coronavirus. Des détails à la fin de ce journal.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
La Chine prend le contrôle de la sécurité à Hong Kong. Pékin a imposé aujourd'hui sa nouvelle loi sur la sécurité nationale sans consulter le Parlement local. Cette loi est déjà très critiquée. 27 pays, dont la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, ont dit à l'ONU que la Chine devait réexaminer le texte. À Hong Kong aussi, on craint un recul très important des libertés, alors que le territoire dispose d'un statut d'autonomie depuis qu'il a été rendu à la Chine en 1997. Bonsoir Achim Lippold.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
Tout est allé très vite, la loi entre en vigueur dès ce soir et elle inquiète beaucoup.
Oui, et à raison Anne, car la nouvelle loi prévoit des sanctions draconiennes, c'est-à-dire des sanctions drastiques. Comme vous l'avez déjà dit, la prison à vie pourra être infligée pour des crimes contre la sécurité nationale qui comprennent les activités subversives, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. La Chine continentale, alors Pékin en fait, se réserve le droit d'engager des poursuites pour les crimes les plus graves contre la sécurité d'État. Les accusés seront alors jugés directement à Pékin devant la Cour suprême. Alors, quel est l'objectif du gouvernement central? Eh bien, c'est d'assurer, selon lui, la stabilité et surtout de réprimer le courant militant pour l'indépendance dans ce territoire de plus de 7 millions d'habitants. Mais pour plusieurs pays occidentaux, vous en avez parlé, cette loi constitue en revanche une attaque contre l'autonomie et les libertés locales. Les États-Unis avaient d'ailleurs déjà annoncé hier mettre fin à des ventes d'équipements de défense sensibles à Hong Kong. Et selon Joshua Wong, l'une des figures du mouvement pour la démocratie, on avait entendu beaucoup parler de lui ces derniers mois, eh bien cette loi marque la fin de Hong Kong telle que le monde la connaissait, citation donc de Joshua Wong.
D'ailleurs, Achim Lippold, plusieurs militants comme Joshua Wong ont renoncé aujourd'hui à leurs occupations dans l'opposition par peur de la répression de la Chine. L'Organisation mondiale de la santé met en garde l'Amérique latine, l'une des régions les plus touchées par le coronavirus. Il ne faut pas se relâcher, sinon le nombre de morts pourrait être multiplié par 4 dans les prochains mois. Le bilan dépasse déjà 100 000 morts et le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. La situation n'est pas meilleure aux États-Unis, le virus est hors de contrôle. Ce sont les responsables sanitaires qui le disent. Ils appellent les Américains et surtout les jeunes à faire plus attention, porter des masques et éviter les foules. Dans l'Union européenne, en revanche, la situation s'améliore et les 27 ont décidé de rouvrir leurs frontières. D'abord les frontières internes et maintenant les frontières extérieures. Elles seront ouvertes dans 2 heures maintenant, mais pas pour tout le monde. Pour l'instant, l'ouverture reste limitée à 14, peut-être 15 pays. Pierre Benazet, les Européens ont mis beaucoup de temps à se mettre d'accord sur cette liste.
La décision a été validée après de longues tractations d'ordre juridique destinées à dresser une liste inattaquable sur des critères objectifs pour éviter les accusations de favoritisme ou d'ostracisme, pour favoriser la relance de l'économie européenne avec le retour des hommes d'affaires et des touristes et pour éviter aussi d'ouvrir trop grand la porte et de laisser revenir la pandémie. Le critère principal, c'est celui de la prévalence du coronavirus. Les non-européens qui seront admis doivent résider dans un pays où il y a la même moyenne qu'en Europe, ou moins, soit 16 personnes infectées pour 100 000 habitants. Comme ceux du Brésil ou de Russie, les résidents des États-Unis seront donc exclus. Pour les Amériques, seuls les résidents du Canada et de l'Uruguay seront admis. Ailleurs dans le monde figurent par exemple Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Thaïlande ou Japon. Le 15e pays, c'est la Chine. Elle figure avec un astérisque dans cette liste. Les 27 ont mis une condition de réciprocité. Et pour que les résidents chinois puissent revenir en Europe, il faudra que les Européens puissent retourner en Chine. Cette liste devra être révisée tous les 15 jours. En revanche, ce n'est qu'une recommandation et les 27 capitales ne seront pas obligées d'admettre les résidents des 15 pays qui figurent sur la liste. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
À Bruxelles, il est 22h06. 20h06 à Nouakchott, la France et ses alliés ont réussi à inverser le rapport de force face aux djihadistes. Déclaration ce soir d'Emmanuel Macron. Le président français est à Nouakchott avec les dirigeants de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Cette rencontre doit permettre de faire le point sur les progrès des armées de ces cinq pays, le G5 Sahel, et de la force française Barkhane. Il y a eu des succès militaires ces derniers mois, dit Emmanuel Macron, mais il faut aussi accélérer les projets de développement et faire revenir l'État dans les zones les plus reculées. On l'écoute.
Nous allons faire le point aujourd'hui sur l'avancée des travaux que nous avions décidés à Pau, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, de la consolidation justement des armées du Sahel, sur le plan du retour de l'État partout dans le Sahel et sur le plan aussi du développement et des projets concrets que nous souhaitons mettre en place avec l'Alliance pour le Sahel. Nous avons, durant ces six derniers mois, connu de vrais succès dans la lutte contre le terrorisme, avec la neutralisation de chefs redoutés et qui ont été sanglants pour toute la région et qui ont fait beaucoup de mal aux populations civiles, parce que nous avons réussi à améliorer notre organisation en matière de sécurité, de partage de l'information, parce qu'il y a eu une vraie montée en gamme de l'intervention des armées sahéliennes. Le matériel a aussi été livré. L'engagement est là. Nous devons faire davantage en matière de retour de l'État. Et dans beaucoup de régions, il est important que la consolidation de l'État soit maintenue. Je pense en particulier à ce qui doit être fait au Mali, au Burkina, dans un contexte, on le sait, très compliqué.
Le président français Emmanuel Macron, les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont indiqué lors de ce sommet qu'il y aurait des enquêtes sur les accusations d'exactions commises par leurs armées. Elles sont nombreuses, ces accusations. Les dirigeants promettent que si les faits sont confirmés, les sanctions seront exemplaires. Airbus va supprimer 15 000 postes, c'est-à-dire plus d'un sur dix. Pour l'avionneur européen, c'est le seul moyen de faire face à la crise provoquée par le coronavirus. Mais le gouvernement français juge ce plan excessif. Et puis, une déception pour les fans de football africain. La CAN, le tournoi majeur du continent, n'aura pas lieu l'année prochaine. La Confédération africaine de foot a décidé de la reporter d'un an à 2022. Christophe Jousset.
À 6 mois de l'échéance, le comité exécutif de la CAF a finalement tranché. Trop d'incertitudes sur la possibilité de finir les éliminatoires à temps, de doutes sur l'évolution de la situation sanitaire en Afrique, le risque aussi de voir la CAN se jouer dans des stades vides, a ajouté Hamad, le président de la Confédération africaine, en direct dans Radio Foot. La raison l'imposait, la prochaine Coupe d'Afrique n'aura pas lieu en janvier 2021, mais en janvier 2022 au Cameroun. Nouveau glissement dans le calendrier donc, pour un tournoi initialement prévu en 2019. Les Camerounais n'étaient pas prêts. Ils avaient demandé le premier report. Cette fois, ils n'y sont pour rien. Avec une CAN en 2022, peut-on maintenir la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, 2 mois seulement après la Coupe du Monde au Qatar? Cette CAN aura bien lieu en 2023, a répondu Hamad, mais je ne sais pas à quelle date. Dans la foulée, la CAF a reprogrammé le CHAN 2020 au Cameroun à janvier 2021, annulé purement et simplement la CAN féminine 2020, mais annoncé qu'au niveau des clubs, une Ligue des champions féminines verrait le jour en 2021. Chez les hommes, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, laissées en suspens, s'achèveront en septembre par des Final Four, des tournois à 4, avec demi-finale et finale sur un seul match.
Les explications de Christophe Jousset. Voilà pour ce journal en français facile. Merci d'écouter RFI. Il est 22h10 à Paris.